Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais vous remercier déjà de votre présence et puis remercier bien évidemment les organisateurs de ce colloque autour de l'œuvre de Pierre, puisque j'ouvre ce colloque qui t'est consacré. Cher Pierre, je voudrais parler en ma qualité de directeur du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, mais aussi comme ami, et je souhaite te rendre hommage pour trois raisons au moins. D'abord, tes qualités morales, si je puis m'exprimer ainsi. Rien n'est plus précieux dans une équipe que l'ensemble des vertus qui portent à la conversation. Je dis bien conversation et non simplement dialogue. Le dialogue ne crée pas forcément un milieu de civilité. La conversation y contribue grandement. Et depuis que je te connais, j'ai toujours eu grand plaisir à t'entendre converser et à converser avec toi. Ensuite, ton art de la transmission. Tu as longtemps dirigé la mention études politiques. Tu as formé un nombre important d'étudiants. D'une génération à l'autre, un tact de la pensée, je crois, s'est transmis. Grand pédagogue, tu as su former des esprits, c'est-à-dire aussi les rendre indépendants. Beaucoup t'en sont redevables, cela vient de ce que la transmission est l'une de tes inquiétudes premières, à la source de ce que tu dis et de ce que tu exprimes, et non un simple effet de la position de magistrature. Enfin, mais c'est là, je crois, le propos de chacun des participants à ce colloque, ton œuvre qui s'est construite et qui se construit toujours au fil des livres et qui offre une vision du politique au croisement de la philosophie morale et des sciences sociales, et qui confirme, à mon avis, la remarque que faisait un jour Susan Sontag à propos de la nécessité de lire. Elle disait avec justesse qu'un livre ne vaut la peine d'être lu que s'il ne vaut la peine d'être relu. Lisons et relisons donc ton œuvre, cher Pierre. Verba volent scripta manent, dit la tradition proverbiale, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je me permettrai de corriger la tradition en ce qui te concerne, verba und scripta manent. Il est temps maintenant de les considérer pour eux-mêmes.
Merci beaucoup Olivier, merci à travers toi au Centre Raymond Aron de nous avoir permis d'organiser ce colloque qui salue notre ami, notre professeur et une œuvre évidemment importante dont il sera ici question. Alors Giulio et moi-même avons eu le plaisir vraiment et l'honneur d'organiser ce colloque et parce qu'il y a un an et demi à peu près, mais ça faisait déjà des années qu'il nous disait cela, Pierre, et de nouveau en disant, ben voilà, j'arrête le séminaire en 2014, c'est le moment, j'écrirai mes livres, mais j'arrête. Alors on s'est dit, c'est venu assez spontanément dans nos discussions avec Giulio, on ne peut pas évidemment ne pas faire quelque chose parce que c'est évident. C'est évident d'une part, et je ferai trois remarques très brèves. On ne peut pas ne pas saluer l'homme, l'ami, le professeur, le philosophe qui nous a formés, dont on a suivi le séminaire tous les vendredis matins. Nombreux sont ceux qui sont présents ce matin, qui sont présents depuis des années au séminaire. Et donc, évidemment, il s'agissait de saluer la personne. Il s'agissait aussi de saluer l'œuvre. Parce qu'évidemment, les livres de Pierre Manence, tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui nous sont venus ce matin, savent à quel point c'est une œuvre inspirante, une œuvre importante, ambitieuse, qui traite des grandes questions humaines et des grandes questions politiques, des grandes questions politiques en tant que ce sont des questions humaines. Et peut-être ce qui fait le prix de Pierre Manence, de son œuvre, mais on aura l'occasion évidemment d'en discuter, c'est qu'il traite des grandes questions historiques et philosophiques en nous aidant à penser le présent, à penser notre situation politique, à penser ce que nous sommes aujourd'hui en 2014. Et ça, évidemment, cela va au-delà de l'hommage à la personne, puisque l'œuvre, évidemment, comme le disait Olivier, est là, et elle continuera d'être discutée. Alors évidemment, en essayant de trouver l'angle du colloque, le titre du colloque, on on s'est dit qu'il fallait trouver un sujet qui soit aussi ambitieux que l'œuvre. Quelle science du politique ? Je pense qu'on aurait pu difficilement trouver une question plus ample et plus décisive, mais c'est tout simplement parce que c'est la question, il nous semble, centrale qui est posée par cette œuvre, avec elle, parce qu'évidemment, la science du politique, pour Pierre Manant, est possible. Il est possible de progresser dans la connaissance de la politique, de l'être humain, et de considérer que la science politique est la science humaine, disons, architectonique. Donc voilà, ce sont les trois grandes raisons qui nous ont poussé à organiser ce colloque. Le moment des remerciements viendra. Merci d'ores et déjà au Centre Raymond Aron. Merci à Assumption College qui nous a aidés à travers Daniel Mahoney à organiser ce colloque, et donc qui est ouvert à présent. Et donc je vais peut-être, Julio veut dire un mot, mais on parle vraiment de concert, je voudrais appeler nos intervenants à la table pour commencer les débats, considérant qu'on a organisé le colloque en trois grands thèmes, donc la question de la modernité politique, la question du rapport entre la philosophie politique et les sciences sociales, et la question des formes politiques qui a beaucoup occupé Pierre Manant dans la dernière période. Voilà.
Oui, merci aussi. J'ai souscrit à tout ce qui vient d'être dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon justement qu'il faut être tout de suite fidèle à l'enseignement de Pierre Manant, c'est-à-dire activer notre ergon et passer à la discussion, à la recherche de la vérité. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à un bon colloque. Merci beaucoup.
Le premier moment de cette journée, c'est la question de la modernité politique. Qu'est-ce qu'être moderne ? C'était une question qui est centrale dans la première partie de l'œuvre de Pierre Manant, l'histoire intellectuelle du libéralisme, dont il sera question ici, ou encore la cité de l'homme. Et donc l'idée était de poser cette question de la modernité politique en prenant les grands thèmes, et en l'occurrence les deux thèmes dont nous allons parler maintenant, c'est le libéralisme avec Gwendal Chaton et le totalitarisme avec Philippe Delara. Je donne la parole à Gwendal Chaton en le présentant. Il est maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Angers. Il a consacré sa thèse à l'histoire du libéralisme français vu à travers les revues Contrepoint et Commentaires, auxquelles Pierre a contribué, ses premiers textes, je crois, dans Contrepoint, puis Commentaires, dont il a été le rédacteur en chef. Et donc, ses travaux sur l'histoire intellectuelle du libéralisme s'inscrivent pleinement dans le cadre de ce colloque. Et donc, je lui donne la parole pour un exposé sur la question du libéralisme vue à travers le prisme de Pierre Manant.
Bien, bonjour et merci Jean-Vincent. Alors bon, classiquement quelques remerciements. Merci aux organisateurs de ce colloque, Giulio et Jean-Vincent, de m'avoir invité à y participer. Merci aussi pour le thème qui m'a été confié, qui est un thème complexe et donc passionnant. Bon, troisième petit préalable, je voudrais juste faire une précision sur la nature de mon intervention. Bon, ce ne sera pas une intervention de nature philosophique, ce n'est pas un propos de philosophie politique, mais plutôt d'histoire des idées politiques, au sens où j'essaye d'articuler à la fois les textes et les contextes dans lesquels ils ont été produits, ceci de manière assez souple. Bon, donc c'est un point de vue un petit peu hétérodoxe par rapport au reste du colloque, me semble-t-il, et j'espère que ce faisant, je ne trahirai pas la confiance des deux organisateurs ce matin. Alors, cela dit, j'en viens au sujet. On m'a demandé de traiter des rapports de Pierre Manant au libéralisme que je considérerais à la fois comme philosophie et comme politique, hein, puisqu'il y a une tension, me semble-t-il, entre l'approche de la philosophie libérale, qui est celle de Pierre Manant, et aussi son appréciation de la politique libérale, disons. Alors c'est une question que j'avais rencontrée il y a quelques années dans ma thèse sans pouvoir l'approfondir à cette époque. Et après avoir relu la plupart des écrits de Pierre Manant à l'occasion de ce colloque, je crois que c'est une question qui est vraiment décisive et centrale parce que, évidemment, ça touche à son évaluation de la modernité. Et donc ça permet, à mon sens, de s'interroger sur l'ensemble de son itinéraire et aussi sur l'ensemble de son œuvre. Le point de départ que je vous propose, c'est une citation issue d'un débat qui s'est tenu il y a 7 ans, débat dans lequel Pierre Manant précisait, je crois, assez bien sa position. Voici ce qu'il expliquait. On n'est pas obligé d'être libéral. Je veux dire que même si on pense qu'une formule politique libérale est souhaitable, cette identification dans un mot de nos vues politiques, de nos perspectives politiques, me paraît peut-être une façon réductrice de poser les problèmes. Certainement, il faut être jusqu'à un certain point libéral. Mais je ne pense pas que l'on puisse être simplement libéral ou que, en quelque sorte, la chose souhaitable soit d'être le plus libéral possible. Bon, alors je crois qu'on a là une formulation ramassée de ce qu'est la position de Pierre Manant par rapport au libéralisme. Il a décrit le libéralisme autrefois dans son histoire intellectuelle comme la base continue de la politique moderne. Cette base continue, c'est quelque chose qui est désirable, mais en même temps, je crois que pour lui, le libéralisme n'est pas et ne doit pas être pensé comme l'alpha et l'oméga de la réflexion politique. Bon. Alors, cela dit, l'angle que j'ai choisi, c'est d'essayer de saisir sa position à l'aide d'une expression qui vaut ce qu'elle vaut, hein, celle d'affinité paradoxale. Pour cela, je voudrais revenir sur son itinéraire en mêlant les deux dimensions, donc itinéraire philosophique et politique, et en m'arrêtant sur 3 moments. D'abord, le moment de sa découverte du libéralisme dans les années 70. Ensuite, le moment de l'élaboration d'une conception originale du libéralisme dans les années 80. Et puis, l'affirmation d'une critique des insuffisances du libéralisme par la suite. Et j'espère en avoir le temps. Je voudrais terminer sur quelques mots autour de l'idée qui est celle de lire Pierre Manant comme un aristotélicien libéral ou un classique libéral, formule que j'aimerais pouvoir expliquer donc en quelques mots à la fin. Alors, premier temps, les conditions d'une découverte du libéralisme. 2 éléments m'ont intéressé. D'abord, le fait qu'il s'est engagé très tôt en faveur de l'antitotalitarisme libéral. Et ensuite, que cet engagement s'est accompagné d'emblée, et c'est pour ça que je parle d'une affinité paradoxale, de ce qu'il a lui-même appelé un affect antimoderne. Bon. Donc, premier point, autour de cet engagement dans l'antitotalitarisme libéral. Pardon. On peut commencer, je crois, en rappelant que, durant sa jeunesse, Pierre Manant évolue dans un univers politique qui est plutôt hostile au libéralisme. Bon, comme il le raconte dans Le Regard politique, il vient d'un milieu communiste. Lui-même a adhéré à la cause du parti. Sa première formation, il la doit aux éditions sociales, comme il le précise. Et puis, au moment où il s'éloigne du communisme, il rencontre un professeur de philosophie qui joue un rôle important, Louis Jugnet, qui lui fait découvrir un nouveau continent, la réflexion théologique et le thomisme, qui est là encore, disons, une doctrine assez peu favorable au libéralisme. Ça n'est que par la suite qu'il va se tourner vers le libéralisme, qui à l'époque, quand même, il faut le rappeler, est une sensibilité qui n'est plus vraiment prise au sérieux, sauf dans quelques cénacles plutôt confidentiels. Et pour Pierre Manant, ce sera le séminaire d'Aron qui jouera un rôle déterminant. Alors, au séminaire d'Aron, il rencontre à la fois, je crois, un homme, une pensée, une certaine attitude vis-à-vis de la politique et aussi un milieu intellectuel qui est en train de se structurer. Bon, que j'ai, il y a quelque temps, étudié. Les Aroniens, ceux qu'on appelle les Aroniens, sont encore marginaux au début des années 70, et ils s'organisent effectivement autour de revues qui brandissent la bannière libérale, ses contrepoints dans un premier temps, et puis ensuite commentaires. C'est dans Contrepoint que Pierre Manant publie l'un de ses premiers articles, alors je ne sais pas si c'est le premier ou l'un des premiers, hein, en 73, qui porte donc sur Aron. Dans lequel il décrit Aron avec cette phrase qui m'a interpellé. Hein, il dit « Aron, c'est quelqu'un qui exerce cette magistrature de la raison que les anciens honoraient et que la confusion de notre temps aurait dû rendre impossible. » Bon, je vous propose de garder cette phrase en tête par rapport à ce que je dirais à la toute fin de mon intervention. Quelques années plus tard, donc, il intègre un petit groupe formé autour de François Furet qui se donne pour objectif d'étudier les classiques de la pensée politique moderne, notamment les classiques du libéralisme. Et il va assez rapidement jouer un rôle important au sein de ce que j'appelle la galaxie antitotalitaire et libérale, occupant une place importante sur l'aile droite, si je puis dire, et entretenant en même temps des liens étroits avec l'aile gauche de la galaxie antitotalitaire. Bon. Donc il y a un engagement libéral de cette époque assez important. Mais en même temps, c'est là que les choses deviennent intéressantes parce qu'elles se compliquent. Pierre Manant entretient un lien singulier avec le libéralisme en raison de ce qu'il a donc appelé un affect antimoderne. Alors cet affect antimoderne, je crois qu'on peut le comprendre en se référant notamment à la lecture de l'œuvre de Strauss qui va retenir son attention à cette époque sur les conseils d'ailleurs de d'Aron. Comme il le dit lui-même dans les entretiens que j'ai cités tout à l'heure, bon, la fascination avec la radicalité du projet straussien est immédiate. Et en même temps, je crois qu'il rencontre immédiatement un rapport particulier au libéralisme et à la démocratie. Alors, je mets les pieds là dans un sujet bien compliqué, la question du rapport de Strauss au libéralisme et à la démocratie. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est donc risqué de vouloir l'aborder en deux phrases, mais je me lance tout de même, puisque je n'ai pas le choix. Disons que, à mon sens, hein, en tout cas, pour Strauss, il y a un seul argument, ultimement, qui joue en faveur des démocraties libérales, qui font que c'est une forme politique recevable, c'est que, finalement, c'est un régime qui laisse le philosophe libre de philosopher en toute tranquillité. Bon. Alors, pour autant, chez lui, il est clair que ni la démocratie ni le libéralisme n'encouragent, disons, la masse à viser la vertu, et que la démocratie et le libéralisme sont plutôt les instruments d'un éloignement de l'homme par rapport au bien vers lequel sa nature le fait tendre. J'ajouterais qu'en bon platonicien, Strauss ne se fait pas plus d'illusions sur la démocratie que sur les autres régimes politiques existants. Alors, ceci dit, très rapidement et trop rapidement, si Pierre Manant est immédiatement sensible aux propos straussiens, c'est aussi qu'il est disponible pour l'accueillir en raison de ce qu'il appelle donc cet affect antimoderne. Je crois que cette influence est repérable dès les premiers livres. Et si, par exemple, on ouvre son ouvrage consacré à Tocqueville, il se termine sur une phrase qui fait écho à un passage célèbre de Strauss dans le libéralisme ancien et moderne, hein, qui est cette phrase qui est souvent citée, « Pour bien aimer la démocratie, il faut l'aimer modérément ». Bon. Alors pourquoi cette modération? Comment peut-on la justifier? Je crois qu'on peut isoler au moins quatre arguments dans le Tocqueville. D'abord, l'égalité des conditions risque de dégénérer en une forme d'égalitarisme délétère et doctrinaire. Deuxième argument, la démocratie détruit les contenus moraux qui constituent la spécificité et donc la grandeur humaine. Hein, c'est une citation du livre. Troisième argument, la démocratie instaure un despotisme de l'opinion. C'est un thème qui est très fortement traité dans l'ouvrage. Et quatrième argument, la démocratie se fonde sur l'indépendance absolue de l'individu, bon, qui est donc un fait illusoire. Alors, bon, ces arguments ne sont pas uniquement présents chez Strauss, mais il me semble qu'on peut trouver ici la trace du philosophe de Chicago dans cet ouvrage donc, qui est publié en 82. Cet affect antimoderne, je crois, doit aussi beaucoup, à l'époque en tout cas, à la lecture d'un auteur moins connu qui, me semble-t-il, joue un rôle important en cette fin des années 70 et ce début des années 80 pour Pierre Manant, c'est Aurel Kolnai, donc un philosophe hongrois, lui aussi très critique du libéralisme et de la démocratie, mais d'un point de vue, je crois, différent, puisque c'est plutôt donc un point de vue catholique, offensif, je dirais, sur la modernité. Je crois que, là encore, on peut trouver un certain nombre d'éléments qui attestent d'une influence, en tout cas ponctuelle. Une introduction, la publication d'un texte de Kolnai et une introduction de ce texte par Pierre Manant dans la revue Contrepoint, je crois que c'était en 1976, si mes souvenirs sont bons. Bon, un texte très polémique de Kolnai, très critique de la démocratie libérale. Et donc, ceci me semble aussi important. Alors, bon, le jeu des influences est un jeu qu'il faut manier avec précaution. Ce que je peux dire, ce que je crois qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, à cette époque, il y a une influence dont la portée reste difficile à déterminer. Je crois qu'on peut la repérer dans « Naissance de la politique moderne », le premier ouvrage de Pierre Manant, avec un certain nombre de thèmes de la pensée de Kolnai qu'on retrouve dans cet ouvrage, même si je crois que l'influence de Strauss prend définitivement le dessus assez rapidement et que l'influence de Kolnai doit être relativisée. par la suite. Alors, quelles conclusions tirer de cette première partie, de ce survol des années 70 ? Bon, dans un contexte particulier qui est celui du tournant antitotalitaire, Pierre Manant est partie prenante du mouvement de redécouverte du libéralisme, et en même temps, il s'interroge, à la lumière de ses auteurs et d'autres, sur les limites de la philosophie libérale. Et c'est sur cette base qu'il va développer une conception originale du libéralisme, ce que je voudrais donc essayer de voir rapidement maintenant. Bon, deux points ont retenu mon attention. D'abord, c'est une compréhension originale de la philosophie libérale que développe Pierre Manant. Et en même temps, durant cette même époque, il s'engage en faveur d'une politique libérale dans un autre contexte qui est celui du renouveau du libéralisme. Alors d'abord, une compréhension originale du libéralisme, de la philosophie libérale, parce que c'est une saisie historique de la philosophie libérale. Je crois que Pierre Manant met en œuvre une approche du libéralisme qui se distingue de deux grandes approches, les approches systématiques comme celle de Hayek et les approches procédurales comme par exemple celle de Rawls. Bon, très rapidement, Pierre Manant n'a pas d'intérêt profond pour l'œuvre de Rawls, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il y a deux reproches qui sont faits par Pierre Manant à Rawls. D'abord, premier reproche, il ne sait pas lire les philosophes du passé. Deuxième reproche, il est assujetti aux préjugés de notre époque. Bon. Deuxième constat, on trouve une critique récurrente du libéralisme de Hayek, en tout cas une distance ou une forme de scepticisme par rapport au libéralisme de Hayek, et ceci très tôt, dès les années 1980. Bon, l'idée, c'est que le libéralisme de Hayek est extrêmement ambitieux, extrêmement riche, mais en même temps probablement trop doctrinaire. Donc une position qui doit être distinguée, à mon avis, de ces deux approches, que l'on connaît bien, admiration et distance par rapport à l'œuvre de Hayek, et je dirais le fait de tenir l'œuvre de Rawls pour négligeable, puisque finalement elle ne ferait qu'exprimer l'air du temps ou l'esprit de l'époque. Alors, à partir de ce double refus, ce qui me semble intéressant, c'est que la compréhension du libéralisme par Pierre Manant est une compréhension historique qui passe par la relecture des grands livres. Donc, une investigation que je dirais d'allure straussienne. Un point de départ historique, le problème théologico-politique, donc suite à la chute de l'Empire romain d'Occident. Bon, les individus sont placés dans une position difficile de double allégeance problématique. Et ce qui va s'imposer pour en sortir, c'est la philosophie libérale et le gouvernement représentatif qui vont s'imposer comme une réplique aux prétentions politiques de l'Église. Bon. À partir de là, la lecture de Pierre Manant me semble originale, puisqu'il commence cette histoire avec Machiavel. Il y a un chapitre très clairement nommé dans l'histoire intellectuelle du libéralisme, qui s'intitule « La fécondité du mal ». Bon. Et une histoire qui se poursuit avec Hobbes, qui va, comme le dit Pierre Manant, institutionnaliser l'enseignement de Machiavel. Bon. Donc on retrouve chez lui, comme d'ailleurs chez Strauss, l'idée que nous avons là les deux fondateurs du libéralisme, une idée qui ne va pas forcément de soi pour un certain nombre d'auteurs libéraux. Alors, l'intérêt de cette démarche, bon, qui je crois est assez bien connue, c'est aussi de prendre au sérieux ce que j'appellerais l'envers du libéralisme, c'est-à-dire que cette démarche, elle éclaire d'un jour particulier le libéralisme, mais aussi elle ramène au premier plan ce qu'il a combattu, c'est-à-dire finalement l'alliance d'un côté de la philosophie classique et de l'autre de la religion chrétienne. C'est ce qui me semble faire l'intérêt de cette approche. Et si on lit avec un petit peu d'attention Pierre Manant, on comprend assez vite que si le libéralisme se présente comme une solution définitive, il n'a pas totalement réussi à abattre, je dirais, ses deux adversaires qui continuent à hanter la modernité libérale. L'autre point qui me semble intéressant, je crois qu'il doit être relevé, c'est que le libéralisme est présenté dans cette perspective comme un projet révolutionnaire de transformation, je dirais même de subversion de la condition humaine. Et cette radicalité du projet libéral moderne est très fortement soulignée par Pierre Manant. Bon, en quelques mots, cela consiste à faire deux choses. Promouvoir une nouvelle figure de l'homme comme créateur de lui-même, ce qu'on peut appeler l'ambition prométhéenne. Et puis produire une société, un ordre politique qui permette d'asseoir ce règne de l'individu, ce que Pierre Manant appelle l'organisation des séparations. Alors, d'emblée, Ce qui peut aussi retenir notre attention, je crois, c'est que cette perspective conduit à conférer une place centrale à l'État. Et contrairement à la plupart des libéraux, Pierre Manent considère que le libéralisme n'a pu être mis en pratique que grâce à un État puissant, qui a pu notamment bouleverser les rapports sociaux, démocratiser la société, dominer l'Église et instituer le marché. De ce point de vue, on pourrait dire que, en tout cas sur la question de l'État, il est plus proche de, peut-être de Guizot que de Tocqueville. Alors ce parti pris théorique éclaire, à mon sens, aussi ses prises de position politique durant les années 80. Ce que défend Pierre Manent à cette époque, en tout cas tel que je l'ai compris, c'est la pertinence d'un libéralisme plutôt modéré, je dirais, au regard des formules libérales qu'on trouve à l'époque, si j'ose dire, sur le marché. Alors cette adhésion à une politique libérale, on peut la saisir, par exemple, à l'aide d'un texte qui est l'introduction qu'il a donnée à son anthologie des libéraux, donc un texte de 1986, où l'on isole, je crois, quatre spécificités intéressantes. La première, c'est que son libéralisme est politique. Bon. Il repose sur un primat du politique sur l'économique. Pour ma part, lorsque je lis ça, je fais le lien avec la critique d'Hayek par Aron. Et je crois que ce libéralisme n'est pas traversé par une phobie de l'État, comme on la rencontrait parfois à l'époque, dans le sillage, par exemple, des Reaganomics. Bon. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que Pierre Manent reprend souvent une idée d'Aron pour modérer les espoirs de ceux qui souhaitaient une véritable contre-révolution libérale, une inversion totale du mouvement, si je puis dire. Quelle est cette idée ? Bon, elle est très simple. La logique du libéralisme politique vient contredire celle du libéralisme économique, parce que ceux qui perdent sur le marché vont aller chercher des contreparties, des consolations sur le marché politique. Hein. Donc la logique du libéralisme politique empêche contre-réforme libérale, si je puis dire, radicale, comme elle était parfois espérée à l'époque, peut-être moins en France qu'ailleurs, mais aussi en France. Deuxième caractéristique, ce libéralisme, il est, je mets le terme entre guillemets, volontariste. Bon, pourquoi je le mets entre guillemets ? Et d'abord, pourquoi je parle d'un libéralisme volontariste ? Pierre Manent s'oppose au libéralisme de l'ordre spontané. Disons un libéralisme type hayekien ou dérivé d'Hayek, pour insister sur un libéralisme conçu comme art de gouverner. Bon. Je crois, pour prendre des catégories simples, peut-être réductrice, mais enfin qui éclaire un petit peu les positions, qu'il acquiesce davantage à un libéralisme par l'État qu'à un libéralisme contre l'État, pour prendre une distinction de Lucien Jaume. Alors pourquoi volontariste entre guillemets ? Parce que, évidemment, ceux qui ont lu La Cité de l'Homme savent qu'il y a un chapitre qui s'appelle Le triomphe de la volonté, où la dimension volontariste de la modernité est critiquée. Mais si je veux essayer de clarifier les choses, je dirais que si le savant d'un côté ou le philosophe critique le triomphe de la volonté, le politique de l'autre maintient encore dans des textes très récents que le libéralisme, c'est avant tout un mode de gouvernement, une doctrine de gouvernement. Bon. Alors je pense que ça explique aussi son attachement à l'État et à la nation comme cadre de la politique libérale. J'en viens donc à la troisième spécificité. C'est un libéralisme que j'appellerais national. Pourquoi ? Bien, en fait, si on fait un petit peu attention à ce qui est dit dans ces textes des années 80, bien, on trouve déjà la présence de cette interrogation sur la forme nationale. Dans le texte de 86, ce qui est frappant, c'est qu'il se termine sur l'idée que le cadre national est nécessaire au bon développement du libéralisme et que la disparition du cadre national serait une menace plus grande que le nationalisme, c'est dit explicitement, et que la disparition du cadre national risquerait d'aboutir à, et je cite le texte, hein, à la perte de l'instinct de l'existence politique. Donc finalement, on a là très tôt cette idée qui sera bien sûr développée par la suite dans les années 90 et 2000. Alors ça permet de comprendre, je crois, en tout cas si j'ai bien compris ces textes, qu'il y a à la fois à cette époque une sympathie à l'égard des expériences de Thatcher ou de Reagan. Pourquoi ? Parce que ces retours au libéralisme s'accompagnent d'une relance énergique de la vitalité nationale. Et en même temps, je crois que Pierre Manent ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la capacité de ces expériences à mener à bien leur programme économique. Quatrième caractéristique, ce libéralisme, plus classiquement pour le coup, là, envisage la démocratie dans son ambiguïté, je dirais, n'est pas béatement démocratique. Alors, je suis obligé de dire les choses un peu vite, mais je crois par exemple que dans l'ouvrage sur Tocqueville, la démocratie est présentée d'un côté comme un fait bénéfique de nature quasi-providentielle, et de l'autre comme la source de maux très profonds, avec notamment un mal qui est bien pointé dans le livre, qui est celui de la tyrannie de la majorité, avec des formules très fortes qui sont employées. J'en ai noté une, hein, donc le fait que le libéralisme impose que la démocratie, pardon, impose le pouvoir sans limite de la masse. Bon. Alors, à ce stade, je crois qu'on peut envisager l'autre pan de sa compréhension du libéralisme, puisque tout ce que je viens de dire s'accompagne aussi d'une saisie très aiguë des insuffisances de la philosophie libérale et aussi, plus récemment, de la politique libérale. Alors, c'est donc le troisième point de mon exposé, à l'affirmation d'une critique des insuffisances du libéralisme. Bon, je crois qu'on trouve, par exemple, dans la Cité de l'Homme, un profond scepticisme devant le libéralisme qui conduit à des insuffisances, voire à des impasses. Alors, je ne pourrais pas, par manque de temps et sans doute aussi de compétences, dénouer tous les fils de la critique du libéralisme qui sont tissés dans cet ouvrage fort difficile, mais j'aimerais insister sur trois éléments qui tiennent à des niveaux d'analyse différents, ou peut-être seulement deux éléments, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Pour pas être... Comment ? 7 minutes, oh mon Dieu. Alors, il va falloir que j'aille très vite. Comment ? Je m'en tiendrai à deux niveaux d'analyse. D'abord, rappeler qu'il y a une présence constante de motifs antilibéraux, qu'il a récemment critiqué une version utopique du libéralisme qui se mettrait en place dans la construction européenne, bon, qui fonctionnerait comme une négation du politique. Alors, la présence constante de motifs antilibéraux, bon, il me semble que sans se rattacher à un courant antimoderne particulier, Pierre Manant mobilise un certain nombre de topoi de la critique antilibérale. Je le ferai les choses de manière un peu impressionniste, j'en évoquerai trois. D'abord, l'absence de fin, avec l'idée que le libéralisme, finalement, donne naissance à un pouvoir qui délaisse la question des fins au profit de la question des conditions de l'action humaine. Bon. Alors, ça a tout un tas de conséquences. Le relativisme en est une. Et c'est une critique classique, mais forte, je crois, qui peut prendre appui aussi bien sur les Grecs que sur Strauss, que sur Tocqueville, que sur Nietzsche, qui est parfois mobilisé aussi, ou encore sur le christianisme. Alors, sur le christianisme, cette remarque me fournit l'occasion de souligner quelque chose, je crois, de très important, qui est que la référence chrétienne dans l'œuvre de Pierre Manant est à la fois, je dirais, omniprésente et un peu insaisissable. Il a parfois été qualifié de libéral catholique. Philippe Reynaud, dans une critique approfondie de la Cité de l'Homme, le considérait comme l'héritier du grand style catholique. Bon, je crois qu'il y a aussi là quelque chose qui est clair ou qui doit être pris en compte, hein, dans son rapport au libéralisme. Alors, deuxième thème, l'abaissement de l'homme. Bon, Pierre Manant insiste sur les effets pervers du libéralisme avec cette idée d'une démultiplication des basses passions et d'une généralisation de la médiocrité, le poids pris par la recherche de l'intérêt personnel, le poids pris par la quête de la sécurité, la manie du confort, l'idée que finalement, la modernité libérale et démocratique éloigne l'homme des passions les plus hautes, la grandeur, la vertu, l'excellence, le sublime, la sainteté, et ce faisant, produit une dégradation de l'homme. Bon. Si je voulais ramasser tout ça en une formule, je dirais que ce projet moderne qui consiste à faire de l'homme son propre créateur, finalement, l'éloigne de ce qui conférait jusque-là à l'homme son humanité, la nature païenne d'un côté, la loi chrétienne de l'autre. Alors là encore, une critique que partagent Tocqueville, Nietzsche, Kolnay, Strauss et bien sûr l'Église. Troisième élément, l'excroissance individualiste. Comme Strauss, Pierre Manent repère chez Hobbes l'apparition de la figure moderne de l'individu détenteur de droit. Alors bien sûr, il critique cela comme une fiction, et cette fiction néanmoins produit des effets. Le moindre n'étant pas que l'extension sans fin de ces droits subjectifs finit par entraver toute action commune. Et là, je crois qu'on trouve un thème très fortement présent dans son œuvre, qui est que finalement, le libéralisme conduit à l'effacement du citoyen devant l'individu, et que l'horizon ultime du libéralisme, c'est la désertion civique. Ça me permet de faire la transition avec la deuxième dimension, qui tient non pas à la critique de la philosophie libérale, mais à la critique d'une certaine interprétation de la politique libérale. Et là, on rejoint tout ce qu'a dit Pierre Manent récemment sur la construction européenne, qu'il entrevoit, je crois, comme la mise en œuvre institutionnelle d'une interprétation utopique et apolitique des principes libéraux. Alors, il y a trois illusions, probablement, qui sont présentes dans la construction européenne, qui sont le fruit d'un attachement à une idée libérale qui est celle de la réconciliation de l'humanité par-delà la politique, et qui aboutissent donc à cette négation de la politique que Pierre Manent critique. Bon, trois éléments rapidement. Ce qui est très fortement attaqué, si je puis dire, comme un triple fanatisme ou un triple dogmatisme. Le culte de l'art en semblance humaine, tout d'abord, l'emprise de ce que Pierre Manent appelle à la suite de Tocqueville le sentiment du semblable, qui finalement nous empêche de penser politiquement, ce que Pierre Manent appelle la religion de l'humanité, hein, qui a des conséquences antipolitiques. Bon, je crois que j'aurais voulu développer, mais je crois que je n'en ai pas vraiment le temps. Deuxième élément, l'idolâtrie du commerce entendu en son sens originel, c'est-à-dire les échanges, pas seulement économiques, mais aussi culturels, ou la communication. L'idée que, finalement, ces trois phénomènes, qui connaissent un accroissement contemporain, produisent l'impression d'une unification, mais qui est en fait seulement apparente et qui est seulement superficielle. Bon. Et là, je crois qu'on retrouve quelque chose d'important, qui est que Pierre Manent est trop persuadé de l'importance de la médiation nationale pour envisager sans scepticisme l'idée libérale d'une unification de l'humanité et d'un dépassement de la politique par l'intensification des échanges. Troisième thème très fortement présent, je crois aussi ce que j'appellerais le fétichisme du droit. Le fait que les règles de droit finissent par se substituer à la volonté politique, qu'on observe aujourd'hui une autonomisation du droit tend à être déduit mécaniquement des grands principes, mais sans faire intervenir de choix politiques. Une autre illusion libérale qui consiste à voir le droit comme le régulateur suprême des rapports humains. Bon. Alors, il y a donc une sorte d'utopisation, pour employer un mot un peu barbare, du libéralisme, qui conduit à la négation du politique, également aussi à l'oubli de la nation, dont on parlera sans doute demain, et au dépérissement de la démocratie. Pierre Manent dit dans La raison des nations que nous sommes dans une époque de despotisme éclairé, ce despotisme éclairé qui s'incarne dans ce mot qui aujourd'hui est très utilisé, de gouvernance. Bon. Alors j'aurais voulu dire un mot d'un texte récent, publié dans Commentaires, que peut-être certaines ont lu, « La crise du libéralisme », dans lequel, je crois, on a une prise de position importante de Pierre Manent sur la politique libérale telle qu'elle est menée aujourd'hui. Mais je n'en ai pas le temps. Je dirais simplement que la thèse qui me semble importante, c'est celle d'un retournement du libéralisme contre l'Occident lui-même. Bon. J'en viens juste à ma conclusion. Est-ce qu'il me reste 5 minutes? Oui.
Deux.
Bon. Alors, tout cela rappelé, je voulais insister sur une idée qui est que, à mon sens, on peut lire Pierre Manent comme un classique libéral. Alors, quelle est la voie qu'il indique? On peut le dire d'une expression commode, un retour à Aristote. En même temps, c'est une expression un peu vague, dangereusement vague. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Je crois que si on part de son inquiétude devant l'éclipse du citoyen par l'individu, si on part de son inquiétude aussi qui s'exprime très clairement dans le regard politique, qui tient au fait que nous serions arrivés à la fin d'un cycle démocratique, eh bien, on constate que la perspective que je crois qui est celle de ses derniers travaux, et celle d'un retour aux politiques inspiré par Aristote. Bon. Qu'est-ce que Aristote peut nous réapprendre à nous modernes? Bon, je crois au moins trois choses. D'abord, une certaine science du politique qui permet de renouer avec la nature politique de l'homme, quelque chose que le libéralisme, finalement, nous aurait fait oublier. Deuxième élément, un certain idéal d'autogouvernement de soi qui fournit un horizon à l'exercice de la vertu et que, là aussi, le libéralisme contemporain nous aurait fait oublier, ou en tout cas perdre de vue. Troisième élément, un certain art politique, une sagesse pratique qui peut guider l'action des hommes d'État. Bon. Finalement, tel que je lis l'œuvre de Pierre Manon, je trouve un point commun avec Husserl. Husserl entendait revenir aux choses mêmes. Pierre Manon, selon moi, nous propose une sorte de phénoménologie politique qui va chercher chez Aristote des ressources pour revenir aux choses politiques mêmes, si je peux utiliser cette expression, après un oubli qui aurait été provoqué par la science politique libérale. Bon, alors j'aurais voulu apporter quelques distinctions, puisque ce retour à Aristote prend ses distances, avec d'autres formes de retour à Aristote. Il y a par exemple un texte très court, mais à mon sens très intéressant, où Pierre Manon critique McIntyre en expliquant pourquoi, selon lui, le retour à Aristote de McIntyre est justement un retour à un Aristote mutilé, comme il le dit, un Aristote qui serait une forme d'aristotélisme hors sol qui serait cultivé en dehors de la cité. Et en même temps, je crois que Pierre Manon reproche aussi à certains néo-aristotéliciens autre chose que cela, c'est de ne pas prendre au sérieux le libéralisme. Et là, j'en reviens finalement à cette idée d'affinité paradoxale et à cette tension très forte dans son œuvre, puisque dans cette critique de McIntyre, il y a cette phrase qui a retenu mon attention, enfin ces deux phrases. La critique d'un libéralisme qui n'aurait pour lui que ses erreurs manque de plausibilité. Il faudrait expliquer un peu pourquoi le libéralisme est toujours plus fort que nos bonnes raisons aristotéliciennes. Donc on voit que dans la critique du retour à Aristote, il y a l'idée que finalement il faudrait quand même essayer de prendre en compte le libéralisme, de le prendre un peu au sérieux. Bien. Alors, bon, en deux mots. Ce qui me permet, moi, de travailler avec l'œuvre de permanence, c'est finalement un parallèle que je ferai avec sa lecture d'Aron. C'est-à-dire que dans des textes récents, Pierre Manon a, je crois, condensé sa lecture d'Aron, qui est une lecture aristotélicienne, dans une formule que j'ai trouvée vraiment très, très fascinante. Il écrit « Aron est un classique libéral plutôt qu'un libéral classique ». Bon. C'est-à-dire que, en dépit des apparences, Aron n'était pas un moderne plus ou moins qu'ancien, mais finalement un aristotélicien égaré dans les tourments du XXe siècle. Alors je ne voudrais pas ici discuter cette lecture, mais il me semble qu'il trouve chez Aron la possibilité de maintenir un certain lien entre un point de vue classique et un point de vue moderne. En relisant La Cité de l'Homme, j'ai été frappé de trouver quelque chose qui va tout à fait dans ce sens. Il y a un développement dans lequel il évoque le pluralisme d'Aristote ou le libéralisme d'Aristote, avec l'idée que finalement on trouverait là un libéralisme authentique qui ne se réduirait pas à la défense des droits égaux des individus, mais qui serait cet art de composer avec tous les biens présents dans la cité pour donner forme à un bien commun qui, d'une certaine manière, les englobe et les dépasse. Alors, l'intérêt de cette lecture aristotélicienne d'Aron, pour moi, c'est aussi qu'on peut l'appliquer à Pierre Manon. C'est-à-dire que je proposerais de le lire comme un classique libéral, c'est-à-dire finalement un ami du libéralisme qui est soucieux de rappeler aux modernes que nous sommes obligés de mettre en commun les actions et les raisons, comme disait Aristote, d'instituer une communauté de citoyens et que c'est une obligation à laquelle nous sommes finalement condamnés par notre condition politique, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler aux libéraux d'aujourd'hui. Bon, voilà ce que je tenais à dire de manière un peu ramassée. Je vous remercie de votre attention.
Alors, merci beaucoup, Wendal. C'est une très belle ouverture à ce colloque. Tu as dit beaucoup de choses, et je te remercie d'avoir pu respecter le temps. Je suis désolé d'être un peu volontariste dans ma présidence, mais on n'a pas trop le choix. En tout cas, d'avoir bien mis en évidence ce que le libéralisme a de profondément politique et cette tentation qu'on peut avoir les libéraux ou certains libéraux de vouloir sortir de la condition politique, chose qui a été bien mise en évidence effectivement par Pierre Manant. Alors, donc Blaise Bachoff nous a rejoint, mais je propose qu'on garde l'ordre qui avait été convenu ce matin, étant donné les difficultés de transport. Donc je vais donner la parole à Philippe Delara en disant qu'il est maître de conférence en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, qu'il est un lecteur attentif de Pierre Manant depuis longtemps et qu'il travaille notamment sur cette question du totalitarisme auquel il a consacré un ouvrage récent, un ouvrage collectif qu'il a dirigé qui s'intitule « Naissance du totalitarisme » aux éditions du CERF. Et donc il va nous proposer une présentation sur ce thème et lire l'œuvre de Pierre Manant à partir de cette thématique. Tu as la parole, Philippe.
Bien, merci. Donc le sujet de Gwendal était immense, le mien est plus petit, mais du moins, c'est ce que je voudrais montrer, ça n'est pas un non-sujet, comme cela pourrait l'être avec d'autres philosophes proches ou disciples de Léo Strauss. Alors, je voudrais commencer par un mot personnel, qui est que raconter mon premier contact avec l'œuvre de Pierre Manant, qui fut la lecture dans Libre de son article « Marx, le travail et la marchandise », qui est de 1978. Alors, en ce qui me concerne, c'était une lecture complètement hors contexte. Je veux dire, je ne connaissais ni l'auteur, ni même le milieu d'idées dans lequel il évoluait. C'était peu après 1981, et j'en étais encore à sortir péniblement de l'emprise althussero-marxiste. Donc je ne connaissais pas Pierre Manant, ni la revue Libre, la revue de Castoriadis, Gaucher et Lefort, et moins encore ce mouvement antitotalitaire qui était en train de changer la face du monde. Détaché complètement, et je dirais même violemment, de l'attraction de l'idée communiste, j'y restais pris par la théorie, avec un T majuscule, qui nous a fait tant de mal, c'est-à-dire le prestige maintenu du marxisme et la vaine recherche d'une critique marxiste du régime soviétique. Et c'est la lecture des origines intellectuelles du léninisme d'Alain Besançon qui me mettra plus tard sur la voie de l'enquête qui est devenue la mienne, ce que j'appelle l'anthropologie du totalitarisme. Mais nous n'en sommes pas là. Et dans ses premiers pas tâtonnants en philosophie politique, l'article de Pierre sur le fétichisme de la marchandise est un coup de tonnerre et une illumination. Voilà qu'un de ces philosophes, loin de mon monde, et même suspect d'occulter la détermination en dernière instance par l'économie qui restait pour beaucoup le fondement de l'intelligence des affaires humaines, fondement déjà bien ébranlé, mais toujours au premier plan, en tout cas de mon éducation et de mes réflexes intellectuels, voilà qu'un idéaliste bourgeois, victime de l'illusion politique que nous nous faisions fort alors de dépasser, donnait la plus éblouissante compréhension d'un thème aussi obscur que crucial chez Marx, l'analyse de la marchandise. Depuis, Pierre est devenu un maître familier, puis un ami, mais la discussion que je voudrais amorcer avec lui aujourd'hui sur le totalitarisme et la façon dont il faut comprendre son empreinte dans notre monde va nous ramener à ce premier moment, ce qui justifie que je me suis permis de l'évoquer. Alors, le totalitarisme occupe une place curieuse dans l'œuvre de Pierre. En termes cartographiques, il navigue entre trois pôles à première vue incompatibles et dont il fait néanmoins une sorte de synthèse, Léo Strauss, Claude Lefort, Alain Besançon. En termes philosophiques, la position de Pierre est délicate à appréhender car s'il soutient, c'est dans le cours familier, que comprendre l'expérience totalitaire est, je cite, « indispensable pour comprendre le présent », il semble le faire dans les termes d'une critique de la modernité libérale où le totalitarisme n'est plus qu'une figure de la politique moderne, fille ressemblante du libéralisme, sans consistance propre, que ce soit dans sa version prométhéenne communiste ou dans sa version nihiliste nazie. Choisissant donc le parti de Léo Strauss contre celui d'Arendt et de tous ceux qui soulignent la singularité du totalitarisme et de ses leçons, irréductible au seul mouvement moderne tout court, quand bien même il en fait partie. Pour Strauss, en effet, la tyrannie moderne n'est rien d'autre, en définitive, que la tyrannie de la modernité. et Pierre est comme aimanté, me semble-t-il, par cette analyse, mais tout en résistant à cette attraction. Et l'usage même du mot totalitarisme, chez lui peu fréquent, mais certainement pas anodin, ni purement descriptif, signale cette place curieuse. Quelque chose du phénomène, de sa monstruosité, déborde, là, ce qu'on pourrait appeler la reductio ad modernum. Et il y a là un trait typique de la pensée de Pierre, qui serait facile de ramener à la double inspiration d'Aron et de Strauss, ce qui est vrai et évident, mais qui ne dit pas tout, en ce sens que ce n'est pas seulement une pure orientation intellectuelle, mais je dirais une disposition de l'existence, que cette capacité à marier le philosophe et le citoyen, à marier deux régimes de curiosité à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Si puissamment charpenté que soit le schéma philosophique du contraste entre la politique et le mode d'être des modernes et la politique et le mode d'être des anciens, il ne préempte pas l'intelligence du monde, et Pierre a hérité autant du spectateur engagé, de ce talent d'Aron, de voir la situation, que de la leçon philosophique de Strauss. Pierre Manant est en un sens le penseur d'une idée, la difficulté de fond qui affecte l'autorisation libérale, c'est une formule d'un des articles recueillis dans l'enquête sur la démocratie, mais c'est une pensée à l'épreuve des événements, expression typique dont je ne sais plus si elle est d'Arendt ou de Lefort, mais qui convient tout autant à Pierre Manant. La liberté des modernes, le gouvernement représentatif, l'épanouissement de la société civile à l'ombre de l'État instrumental, ces trois traits concomitants et constitutifs du libéralisme tendent à rejeter dans les limbes d'une facticité sans autorité toutes les activités sociales. Ils tendent à la privatisation des activités humaines, privatisation contraire à la nature éternelle du monde. Mais cette idée unique, donc je citais à nouveau l'enquête sur la démocratie, cette protestation que la maturité n'a pas assagi, n'est pas un terminus ad quem, c'est un programme, source d'enquêtes multiples, et notamment sur le totalitarisme. Donc, pourrait-on dire, la pensée de Pierre Manant, c'est ni Strauss, ni Arendt, ou ni Strauss, ni Besançon, ni Strauss, ni Lefort, ni Strauss, ni Castoriadis, quatre auteurs que je réunis ici, malgré leurs différences importantes, en tant qu'ils partagent l'idée que le totalitarisme est à penser à partir de l'idéologie. Telle est donc la tension dans laquelle Pierre se meut et que je me propose de décrire puis d'interpréter. Donc j'en viens aux pièces. Il s'agit de deux chapitres du cours familier, celui sur la question du communisme et celui sur le mystère nazi, et d'un article publié 15 ans auparavant dans Commentaires, Le totalitarisme et le problème de la représentation politique. Mon premier mouvement avait été de m'attacher à l'inflexion, à la différence, voire à l'opposition entre ces deux groupes de textes, mais je me suis aperçu que c'était un niveau superficiel et qu'il convenait de les prendre comme un ensemble. Dans le cours familier, le communisme est abordé à partir de l'idée qu'il se veut l'accomplissement de la modernité, par opposition à la révolution conservatrice nazie, protestation contre le monde moderne. Mais aussi, il est abordé à la lumière du fait que ces deux régimes finirent par se ressembler au point d'apparaître comme les espèces d'un genre commun. Et l'autre point d'entrée de ce chapitre sur le communisme, typique de cet œil si aigu pour l'événement, c'est le phénomène, dit-il, de la mort étrange et de la survivance étrange du communisme. Et en effet, la longue durée du communisme et la survie de l'illusion communiste qui prend la forme de l'amnésie du communisme et de ses crimes sont en effet un mystère non moindre que l'absurdité et la violence apocalyptique du nazisme. Et nous en avons encore un exemple récent avec l'annexion de la Crimée par la Russie qui a suscité critiques et réprobations au nom du droit international, au vu du référendum ubuesque qui a suivi l'annexion militaire, mais on n'a guère évoqué à cette occasion le précédent tatar, c'est-à-dire la déportation aux conséquences génocidaires des Tatars de Crimée en 1944, un peuple dont les survivants, autorisés à rentrer chez eux seulement à la chute de l'URSS, se retrouvent aujourd'hui asservis aux héritiers de leurs bourreaux. L'oubli innocente, sinon justifie, l'État successeur de l'URSS, alors que n'aurait-on dit si l'Allemagne, à la suite d'un différend avec la Pologne, s'était avisée de récupérer un bout de Silésie. Alors, le totalitarisme, c'est en cela que le phénomène de la durée et de la survie est fascinant, le totalitarisme est en effet, si je puis dire, logiquement voué à la surenchère permanente, nécessaire pour entretenir l'enthousiasme, comme disait Elia Lévy, faire miroiter l'immanence de l'avenir radieux et projeter par les armes l'universalité de sa formule. Il est donc voué, logiquement, à une vie brève. Or, le communisme a duré plus de 70 ans et a survécu même à l'extinction de la foi révolutionnaire, au plus tard dans les années 70, et sans doute avant, et plus encore, il continue de marquer de son empreinte des régimes post-communistes, phénomène qui reste à dompter par la pensée, que ce soit dans le cas chinois ou dans le cas de la Russie. Alors le cours commence par laisser la place à Alain Besançon, c'est-à-dire à la version la plus radicale du concept de régime idéologique. Concept idéologique, car il implique que le régime soviétique n'est pas un régime, mais une réalité sui generis qui ne peut être appréhendée que sous la catégorie d'idéologie. Ce que Pierre résume de manière très spirituelle et très claire, en même temps, toutes les clés d'Aristote, c'est-à-dire de la typologie des régimes politiques, entrent dans la serrure soviétique, mais aucune n'ouvre la porte. Puis vient le tempérament, je dis tempérament plutôt qu'objection straussien, tempérament straussien plutôt qu'objection straussienne. L'idéologie a pu susciter la tyrannie, mais la tyrannie a pu susciter l'idéologie à une époque où toute politique a une composante idéologique ou abstraite. Et c'est là le point où il se sépare de la tradition besançonienne ou arendtienne. Le communisme ne fait qu'actualiser sous une forme particulièrement simplifiée et brutale des idées propres au monde démocratique. Et ici, le concept de régime idéologique paraît dissous dans celui plus vaste de tyrannie de la modernité. Néanmoins, la suite s'efforce de le sauver, au moins en partie, en reprenant l'idée qui est le cœur de la thèse de l'idéocratie, de la définition du totalitarisme à partir de l'idéologie, à savoir que l'idéologie totalitaire est un mensonge global, qu'elle ne travestit pas tant la réalité qu'elle ne la remplace. Or, là-dessus, Pierre écrit, la réalité, dans le totalitarisme, c'est cette volonté qui se moque de la réalité. Alors, cette formule est extraordinaire parce qu'elle condense en quelques mots la conception totalitariste, besançonienne ou arendtienne, de la logique de l'idée, du totalitarisme comme création d'un monde fictif, et en même temps, elle le fait dans le langage straussien de la critique du volontarisme des modernes. Alors peut-être cette lecture est-elle naïvement œcuménique, et on pourrait interpréter ces pages simplement comme la simple absorption de la théorie du totalitarisme dans celle de la tyrannie de la modernité, je crois qu'il y a plutôt une tentative héroïque de conciliation entre les deux. Et c'est la version de Claude Lefort qui se prête sans doute le mieux à l'accommodation, celle qui fournit le pont entre les deux explications du totalitarisme, tyrannie de la modernité et idéocratie. Selon Lefort, en effet, le pouvoir moderne, délié de la religion, menace de se détacher de la société, de devenir purement prédateur, abîmé dans la particularité, écrit Lefort. Et je cite un passage de l'invention démocratique qui est lui-même repris dans le cours familier. Avec le totalitarisme se met en place un dispositif qui tend à conjurer cette menace, qui tend à ressouder le pouvoir et la société, à effacer tous les signes de la division sociale, à bannir l'indétermination qui hante l'expérience démocratique. l'abolition de toute séparation au profit du peuple un, d'un pouvoir-peuple, écrira plus tard Marcel Gaucher, et donc une réaction à la désincorporation des individus dans l'ordre représentatif. Mais pour le fort, l'indétermination démocratique ne se ramène pas à la désincarnation représentative. C'est une expérience qui recèle une proposition d'humanité. Et ce qu'on peut objecter ici à Pierre, c'est que c'est la thèse que ce passage à l'acte de l'abolition de la pluralité ne serait pour lui qu'une dialectique interne à la politique moderne, c'est-à-dire au régime représentatif, alors qu'on pourrait y voir aussi, les deux dimensions ne sont pas contradictoires, une réaction antimoderne, une révolte contre les mœurs de la représentation, pour reprendre une autre formule très, très éclairante sur la modernité politique de Pierre. Donc une tentative de régression vers un régime ancien d'incorporation, qu'on pourrait dire religieux ou pseudo-religieux, ou relevant d'une religion séculière, autrement dit, d'un phénomène d'hybridation catastrophique de l'ancien et du moderne, comme le suggérait Louis Dumont. Alors, je sais que le nom de Dumont, comme la tradition sociologique en général, est sans doute un chiffon rouge pour Pierre Manant, et pourtant, j'aimerais soutenir qu'il est beaucoup plus proche qu'il n'y paraît de l'entente du totalitarisme par Dumont, puisque l'un et l'autre soulignent à plusieurs reprises que les révolutions totalitaires surviennent typiquement dans des sociétés retardataires où la transformation démocratique n'en était qu'à ses débuts, de sorte que la modernisation, les grands modèles français et anglais, y apparaissent à la fois comme une menace et un défi, objet à la fois d'un rejet panique et d'une imitation caricaturale. Dumont écrivait en 1961 dans Homo Hierarchicus, le totalitarisme est la némésis de la démocratie abstraite. Et je crois que Pierre aurait pu écrire cette phrase. À ceci près que le concept d'abstraction démocratique n'a pas le même sens, pas le même contexte chez l'un et chez l'autre. Si j'ose dire, au risque de m'attirer les foudres méritées pour le coup de l'un et de l'autre, de Manant et de Dumont, ils ne sont pas inscrits dans la même philosophie de l'histoire. Alors, je laisse de côté la théorie de la révolution du nihilisme, le chapitre sur le nazisme, car je crois que sur cette question, Philippe Reynaud a écrit une mise au point parfaite dans son article sur la révolution du nihilisme de Rauschning à Léo Strauss. Et j'en reviens au totalitarisme générique, qui est le thème de l'article de 1985. La thèse de 1985 est brutale. Le totalitarisme est la conséquence nécessaire, le renversement inévitable, la présupposition, pour reprendre un langage marxien, du libéralisme. En effet, la représentation politique ne peut pas ne pas se retourner en son contraire. L'artificialisme de la composition des volontés individuelles en fusion dans une volonté une. Je cite Enquête sur la démocratie. Séparation radicale du pouvoir et de la société, instrumentalisation et infinitisation de ce pouvoir, représentation de la société par un pouvoir ainsi défini, nous avons là la matrice commune de la démocratie et du totalitarisme. La thèse est donc que la séparation radicale du pouvoir et de la société prépare la fusion entre les deux sous la forme du parti totalitaire, troisième terme strictement extérieur à l'État, comme il est extérieur à la société. Citation à nouveau du même article. Exerçant le pouvoir réel, le parti se confond avec l'État ou avec le rôle de l'État. Couvrant la société du réseau de ses cellules, il se confond avec la société. Mais qui est le guide de cette analyse et en éclaire le sens ultime, mieux encore, à mon sens, que la critique aristotélo-straussienne de la politique moderne? C'est Marx. C'est lui qui fournit ou inspire les concepts cardinaux de l'article, société retardataire, contenu de vie, avec le thème de la dévalorisation des contenus de vie par la dissolution de la société civile en individus indépendants, bien sûr l'abstraction bourgeoise, et enfin l'idée du spectateur extérieur, observateur du spectacle de la démocratisation. Le Marx dont il s'agit, c'est le jeune Marx, celui de la question juive avant tout, plus encore que ce, donc qui est de 1843, plus encore que celui des manuscrits de 44. Parce que Marx était, je cite Pierre, parce que Marx était le plus naturellement aristotélicien des philosophes modernes, il a compris mieux qu'aucun quel bouleversement était impliqué par la privatisation de ce qu'il appelait les éléments matériels et spirituels qui forment le contenu de la vie des individus. Ça n'est pas dans l'article que je commande, c'est dans un texte contemporain qui est dans l'enquête sur la démocratie, page 124. Alors, la proximité de Pierre Manant avec la protestation anti-bourgeoise du jeune Marx, voyant déferler sur l'Allemagne les hordes de la modernité venues de l'Ouest, lui suggère une image extraordinairement expressive et éclairante. Marx incarnerait la situation de l'homme qui, appartenant à une société retardataire, observe, donc entendu de l'extérieur ou en partie de l'extérieur, l'étrange métabolisme entre la société et l'État qui fait la vie intérieure d'un régime démocratique ou d'une société libérale. Alors cette image du spectacle et du spectateur est riche et complexe car elle peint à la fois une situation historique vécue, celle de l'acculturation tardive et d'autant plus violente qu'elle est tardive de l'Allemagne par rapport aux expériences libérales françaises et anglaises, et un point de vue sur cette situation de modernisation tardive. Marx, écrit-il, perçoit très vivement, à raison de cette position de spectateur de la démocratisation, que la privatisation des contenus de vie est une disqualification. Il le perçoit beaucoup plus vivement que le spectateur de la société avancée. Dans la société bourgeoise, on mène une vie qui est fausse de part en part. Et ici, je pense que c'est Pierre, tout autant que Marx, qui parle. Alors voilà la phrase cruciale. Marx éprouve donc ensemble deux sentiments contraires. Il surenchérit sur l'idée bourgeoise d'une autosuffisance de la société civile apolitique et il méprise radicalement la société bourgeoise existante où les hommes mènent une vie si fausse. Ces quatre lignes ramassent avec une éloquence fulgurante la misère et la grandeur de Marx, la radicalité de sa protestation contre le monde bourgeois et en même temps sa dépendance ultime à l'égard de l'idéologie économique, l'apolitisme de l'utopie communiste. En même temps, je résiste à l'image du spectacle, c'est-à-dire à l'idée que la société libérale serait un piège, un mensonge global, comme l'est la société totalitaire, dont on ne pourrait s'extraire que par l'extériorité du spectateur. Et il suffirait d'un petit pas pour convertir le spectacle en expérience authentique, c'est-à-dire vivable, dont les institutions anglaises donnent d'ailleurs le principe, un mixte d'autorité sociale, c'est-à-dire de hiérarchie ou d'incorporation d'anciens régimes, et de représentation moderne, la formule est de Pierre, toujours dans le même ouvrage. Alors, j'aggrave mon cas en qualifiant ce pas de sociologique. Je n'espère pas convaincre Pierre que la sociologie bien comprise est la continuation de la philosophie politique par d'autres moyens, mais j'essaye de le soutenir néanmoins en suggérant que ce que Marx et Manant voient sous le visage de la fausseté, de l'artificialisme de la séparation de l'homme avec lui-même, c'est-à-dire la destruction des contenus de vie par les droits de l'homme, eh bien, il est permis de le voir comme un problème posé à l'homme moderne, comme une contradiction interne à sa condition, mais qui ne le fait pas sortir de sa nature, un désaccord entre sa représentation comme individu et sa réalité d'homme social, qui ne le condamne nullement à l'aliénation et auquel il est possible, au moins en principe, de donner un sens humain. Et s'il est vrai que la version française du problème est plus proche de la fausseté que la version anglaise, et qu'elle a joui du fait de l'importance de l'épisode jacobin, d'un rayonnement exceptionnel et funeste. Là encore, magnifique formule de Pierre dans le texte, l'échec de la politique de l'impossible l'inscrit dans la conscience européenne comme une politique possible. Cela ne fait pas de la Révolution française et de son héritage dans notre culture politique le laboratoire du totalitarisme. Au vrai, Pierre lui-même recule devant cette hypothèse. Il dit « Je ne prétends pas proposer ici une interprétation de la Révolution française ou de 93-94 dans son rapport au totalitarisme. De fait, la France ne sera jamais la terre du fascisme ni du bolchevisme, n'en déplaise à Zef Sternel. Et il n'y a pas, selon moi, de filiation directe, mais tout au plus une reconstruction artificielle d'une filiation entre l'imaginaire jacobin et un tout autre type de révolution qui n'a de commun avec ses devancières que le mot, parce qu'elle se veut, pour la première fois, parousie de l'homme nouveau, ici et maintenant, eschatologie terrestre. Avec Lénine, on change de monde. Donc je me suis efforcé là de cerner brièvement un différend avec Pierre Manant sur le sens de l'expérience totalitaire, mais ce n'était pas au fond mon propos principal. Ce que je voulais souligner avant tout dans cet exposé, c'est la grandeur et l'importance de ce moment marxien de la pensée de Pierre Manant et suggérer que, sans doute pas tout le temps, mais au moins certains jours, la protestation radicale et sincère du jeune Marx surpasse chez lui ce qu'on pourrait appeler le nietzschéisme ésotérique de Léo Strauss. Et qu'on n'imagine pas que ce jeune Marx n'appartient qu'au jeune Manant. Avec lui, nous ne sommes pas menacés par quelques coupures épistémologiques racornissant la protestation en sciences de l'histoire. Et la lecture de l'introduction de 2007 à l'enquête sur la démocratie, plus réjouissante de ce point de vue que la fameuse introduction de 1857 de Marx, atteste de la permanence de cette voie chez le Marx de la maturité. Il est toujours question de descendre du libéralisme, de sortir de la cage de l'abstraction, de l'appauvrissement des possibilités humaines, c'est-à-dire, si je le comprends bien, d'effectuer un mouvement qui, si difficile soit-il, n'est pas hors de notre portée et qui est une fois de plus exprimé en termes marxiens, je cite cette introduction, « percevoir ce qu'est l'homme en dehors de l'État ». En somme, et je reviens à mon point de départ, Pierre Manant est notre meilleur marxiste.
Voilà, voilà Pierre, vous voilà marxiste maintenant. Merci beaucoup Philippe pour cette lecture qui prolonge au fond la réflexion sur le libéralisme à travers le totalitarisme et ce qu'il porte. Et puis d'avoir aussi joué le jeu de ce colloque dont je rappelle le principe qui est vraiment de mettre l'œuvre en discussion et de confronter les points de vue. Et c'est vraiment, vraiment à ça que sert aussi ce colloque. Paul Thibault.
Au long de ces passionnantes lectures de Pierre Manant, il me semble qu'on a plusieurs fois tourné autour de la question de la nation, plutôt on a parlé beaucoup, mais il y a un trou, c'est d'où sort-elle la nation ? C'est ça que je me demande, et y compris d'ailleurs dans ce que je connais de l'œuvre de Pierre Manant, qui est assez large. Elle arrive, elle s'impose au XVIe siècle, enfin bon, à travers Machiavel, etc. Et Hobbes, évidemment, mais avant, et la réforme, mais avant, elle avait une existence dans un coin de l'Europe particulier, qui est l'Europe du Nord-Ouest, disons essentiellement franco-anglaise. Et là, il y a une question de l'origine de la nation. Et c'est lié, je vais m'arrêter là, à la question du totalitarisme, dans la mesure où, pour que le totalitarisme se déploie, il faut qu'il n'ait pas de cadre. Je crois que Gauchet, dans son bouquin justement sur l'épreuve du totalitarisme, souligne que tous les totalitarismes, pour lui il y en a trois, ont eu affaire à un imaginaire impérialiste. Et je pense qu'en France particulièrement, si le jacobinisme n'a pas s'est arrêté, a été arrêté, et si au XIXe siècle il y a toujours eu des forces modératrices, c'est à cause de la force du contenant de la politique. Donc la politique a besoin d'un contenant, et il me semble que c'est une question qui s'est, je dirais, à l'horizon, à partir des réflexions que vous avez présentées.
Ce que je peux dire sur cette question, mais dont je ne sais pas si Pierre s'accordera avec cette réponse, c'est que la nation, c'est la société nationalisée. C'est un point que je n'ai pas voulu développer dans mon exposé pour éviter que la discussion tourne à l'exégèse des auteurs, mais peut-être est-ce le moment de dire qu'au fond, ce qui, à mon avis, fait problème dans la lecture des grands philosophes modernes par Pierre Manant, c'est l'exagération de l'artificialisme. Je pense qu'au moins chez les plus grands d'entre eux, chez le plus grand, qui est à mon sens Rousseau, et y compris chez Hobbes lui-même, l'artificialisme est une dimension importante, mais je dirais que c'est une surface qu'il faut traverser, que l'artificialisme est à la fois prépondérant et en quelque façon trompeur, et qu'il y a chez l'un et encore plus évidemment chez l'autre, je veux dire Hobbes et Rousseau, une considération du fait de la société moderne, c'est-à-dire la société des individus, non pas comme montage artificiel de la séparation, mais comme ce que Dumont appelle le problème de l'homme moderne, c'est-à-dire le fait que nous sommes des individus, nous vivons comme des individus, tout en étant, et donc en étant capables de savoir et de sortir de la cage, que nous sommes des hommes sociaux.
Oui, alors, j'essaye de faire le lien avec ce que j'ai évoqué. Effectivement, il y a cette dimension de la nation qui, à mon avis, comme j'ai essayé de le dire, apparaît très tôt dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation, évidemment, à partir de 92, qui est le moment de tournant, hein, de toute la discussion sur le traité de Maastricht. Et puis ensuite, ça prend une dimension importante dans l'approche proprement philosophique. Mais effectivement, c'est là très tôt. Alors, je ne sais pas trop comment, si votre question portait je ne sais pas trop comment la raccrocher à mon exposé. Ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est que très tôt, on trouve cette idée, hein, que le cadre national est finalement là où le corps politique s'organise, hein, et que tant que ce cadre national, tant qu'on n'a pas proposé une forme alternative à ce cadre national, hein, eh bien, nous sommes condamnés à nous organiser politiquement. Dans cette dimension. Voilà. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris comment votre question s'articulait avec la question du libéralisme.
Du libéralisme.
Avec la question du libéralisme. Avec mon exposé. Bon, je crois que ça portait davantage sur l'exposé de mon collègue.
Pierre.
Oui, pardonnez-moi d'intervenir, non, parce que c'était... Je préfère écouter que parler. J'ai déjà que trop parlé dans cet amphithéâtre. Ce que j'entends est si bien dit et si bienveillant que je voudrais simplement écouter. Mais je voudrais quand même dire deux choses. En réponse à la question de Paul Thibault sur la nation et le libéralisme, une chose importante, je crois, c'est le lien entre la doctrine libérale et le contexte. Le contexte politique. Il est clair que si, les grandes notions libérales sont appliquées dans le cadre national, l'on a une certaine forme de libéralisme. Si on suppose que les principes du libéralisme sont appliqués dans un cadre mondial, à supposer que l'idée d'un cadre mondial ait un sens, on sort tout à fait du libéralisme originel. Donc les mêmes notions, les mêmes droits prennent un sens politique tout à fait différent selon le cas dans lequel on l'applique, il me semble. Et c'est pour ça que effectivement la question du cadre national est si importante. Alors sur le totalitarisme, juste une remarque. Bon, il y a des choses vraiment que je n'écrirai plus dans ce qu'a cité Philippe. Matrice commune du libéralisme et du totalitarisme. Si je pouvais effacer cette phrase, je l'effacerais. Mensonge global, je ne crois pas du tout avoir employé ce terme. Mais alors, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout pour.
C'est ma glose de la théorie besançonienne.
Non, mais si tu veux, sur le totalitarisme, je me rends compte qu'au fond, j'ai de moins en moins écrit, et pour ainsi dire, j'ai cessé complètement de le mentionner, presque, parce que j'ai le sentiment que, disons, l'extrémisme politique totalitaire a un effet pervers sur ceux qui l'étudient, c'est de les porter à l'extrémisme théorique. Et que les grands maîtres que tu as cités ont tendance à essayer de se proportionner au caractère démesuré du mal totalitaire par le caractère extrême de l'interprétation théorique. Et je crois au fond que c'est un piège que l'excès du totalitarisme nous tend. Je ne suis pas sûr que, du point de vue de ses ressorts théoriques, le totalitarisme soit au fond si intéressant. Voilà. C'est pour ça que je peux le dire comme ça, mais je ne l'écrirai pas ainsi parce que c'est trop décourageant d'une certaine façon. Mais parce que au fond, j'en dirai un mot demain. Tu as employé l'expression, je ne sais plus de qui elle est finalement, révolte contre les mœurs de la représentation. Je crois en effet que tous ces phénomènes...
C'est demain, non, celle-là.
Oui. Bon, ça, celle-là, je la conserve. Tous ces phénomènes sont liés à cette question, en effet, de la division l'État, la société, le représentant représenté, et que cette instabilité, il faut la fixer. Et ce qu'on appelle le totalitarisme, c'est une façon de fixer cette instabilité. Et le parti, l'idéologie sont des manières de le faire, mais je ne suis pas sûr que j'aurais envie aujourd'hui d'aller au-delà de cette simple idée. C'est pas la matrice commune du libéralisme et du totalitarisme. Il y a un problème du régime représentatif, du gouvernement représentatif, et qui s'éprouve dans la vie ordinaire de la société démocratique et qui, dans certaines circonstances, donne lieu à cet effort pour arrêter, en quelque sorte, la perplexité des représentés devant la représentation. Je n'irai pas plus loin que cela. Disons, je crois que, d'une certaine façon, peut-être faut-il faire rentrer en ce sens le totalitarisme dans le droit commun théorique, intellectuel, mais pas dans le droit commun politique, moral et pratique, bien sûr.
Christophe Litvin.
Oui, bonjour. J'étais très séduit en fait par la thèse de Pierre Manon comme un philosophe crypto-marxiste que vous avez suggéré à la fin de votre exposé. En fait, ma question irait en ce sens, jusqu'où tiendriez-vous cette proposition? J'ai été d'autant plus intéressé par cette proposition qu'en lisant le dernier ouvrage de Pierre Manon sur Montaigne, j'ai trouvé des passages où je me suis demandé si dans les manières de survoler à certains moments la perspective de Montaigne relativement moderne, il n'y avait pas des traces de Marx. Donc c'est à la fois une question à vous et à Pierre Manon.
Très rapidement, je commence par la réponse à la dernière question. Jusqu'où? Jusqu'à 1843, c'est-à-dire jusqu'à le jeune Marx que j'ai appelé la protestation marxiste, marxienne. C'est ce marxisme-là qui va très vite être recouvert par une philosophie de l'histoire et déguisée en sciences économiques que je pense on peut pousser sérieusement l'analogie entre Pierre et le marxisme. Et l'intérêt de cette remarque, c'est, je crois, que c'est que l'attitude par rapport à la modernité du jeune Marx et celle de Léo Strauss ne sont pas du tout semblables. Celle de Marx étant peut-être plus active et plus optimiste, tandis que celle de Strauss est plus méditative. Et à la limite, je crois que Pierre l'avait écrit dans un magnifique article sur Strauss dans la revue de métaphysique et de morale où il expliquait que c'était un auteur paradoxal qui nous faisait comprendre des tas de choses. Mais plus on comprenait de choses grâce à Léo Strauss, moins on comprenait Léo Strauss lui-même. Et il suggérait l'hypothèse d'un cynisme nietzschéen sous-jacent à l'entreprise de Strauss. Et évidemment, le jeune Marx, la fougue anti-moderne du jeune Marx n'a pas du tout la même tonalité. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce rapprochement que j'ai fait. Quant à l'intérêt du totalitarisme, en effet, si le totalitarisme n'était que le nazisme, c'est-à-dire l'apogée du totalitarisme, son extrémité, ça serait un sujet d'intérêt limité et qui aurait ce danger, ce piège, de pousser ceux qui s'y intéressent à l'extrémisme théorique. Je vois bien ce que tu veux dire. Je défendrai néanmoins l'intérêt de la chose par, justement, le phénomène de la durée et de la survie. Je crois que ce qui est intéressant et ce qui est à penser, ça n'est pas le totalitarisme pur, c'est sa routinisation, sa perpétuation, que ce soit dans l'idéologie, la faveur de l'idée communiste, comme dit l'autre, et aussi dans les régimes post-totalitaires qui n'en finissent pas de sortir du totalitarisme. Et encore une fois, pour moi, la Russie d'aujourd'hui et la Chine d'aujourd'hui sont certainement les objets politiques les plus intéressants, en tout cas parmi les plus intéressants qui se livrent à l'enquête de la science politique.
Timine Wango, donc je travaille sur le politique et aussi sur la Chine. Donc vous avez dit qu'en fait, à partir de l'œuvre de Pierre Manant, vous avez souligné l'importance du droit dans les rapports humains et l'importance de l'individu par rapport aux citoyens. Donc je voudrais savoir, en fait, selon vous, qu'est-ce qui, dans l'œuvre de Pierre Manant, fait naître un citoyen ? Et un citoyen peut-il exister en dehors de la nation ? Dans quelle mesure ? Merci.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais une question pour Gwendal. Éventuellement, Pierre peut réagir aussi parce que ça lui est aussi adressé. Tu dans ton texte, tu as essayé de retracer l'évolution du rapport de l'œuvre de Pierre Manant au libéralisme. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, disons, on peut parler d'une évolution du contexte, comme vient de le dire Pierre, c'est-à-dire c'est vrai que la situation du libéralisme, pour reprendre le titre du texte des débuts des années 80, n'est plus la même. Est-ce que c'est une évolution de la doctrine libérale elle-même qui conduirait Pierre Manant à prendre ses distances avec, disons, un certain libéralisme ou néolibéralisme, comme on dit aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une évolution de l'œuvre elle-même ? C'est-à-dire que quand on prend un texte comme La crise du libéralisme, est-ce que c'est une évolution, disons, de l'œuvre philosophique, politique, ou est-ce que ça tient uniquement au contexte ? Moi, je me demande, et encore une fois, c'est une question, s'il n'y a pas quand même une forme d'évolution dans une accentuation, disons, de la dynamique délétère du libéralisme, notamment tu évoquais la question de l'effacement du citoyen au profit de l'individu. Je me demande si l'accentuation de la perspective politique sur la dernière période, puis les métamorphoses de la cité et les autres textes qui ont suivi, on le verra sans doute aussi demain, explique, disons, la volonté de retrouver une forme aristotélicienne du libéralisme, mais ce qui le conduit d'autant plus à prendre ses distances avec la forme, disons, moderne du libéralisme.
Oui. Oui, deux, trois éléments de réponse, peut-être. Alors, effectivement, moi, ce qui m'a frappé en relisant un certain nombre de textes pour préparer ce colloque, c'est deux choses, toujours en séparant les plans analyse philosophique et disons, évaluation de sur le plan politique. D'abord, puisque je suis dans la perspective d'essayer de comprendre un itinéraire, il m'a semblé qu'il y avait une véritable évolution, puisque, si mes hypothèses sont valables, il y a une évaluation beaucoup plus critique de la philosophie libérale dans les années 80-90 qu'aujourd'hui, où il me semble que finalement la philosophie libérale est réinscrite dans un mouvement plus global. Je dirais il y a un élargissement de la perspective historique où le libéralisme devient une couche qui s'ajoute à d'autres couches, au moins à deux grandes couches. Je crois qu'à la fin du regard politique, c'est un peu ce que dit Permanent, en disant qu'il y a trois vagues successives, mais qui ne se suppriment pas les unes les autres. Et donc, d'un positionnement que on peut dire au moins partiellement anti-moderne ou très critique, hein, je crois que c'est la cité de l'homme qui cristallise cela, il y a une évolution vers une appréciation, plus mesurée. J'en viens au thème que j'essayais d'introduire à la fin, de tisser un lien entre le point de vue classique et le point de vue moderne. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, une évolution dans le rapport de Pierre Manant à l'évaluation de la politique libérale. Oui, je crois aussi, parce que effectivement, il y a un soutien, je crois, assez fort dans les années 80, hein, qui est très net, bon, dans un contexte particulier qui est le contexte du renouveau du libéralisme. Alors c'est vrai que moi, mon prisme est aussi toujours d'essayer de prendre en compte le poids des, non pas du contexte, mais des contextes historiques, politiques, intellectuels notamment. De ce point de vue, il y a une évolution frappante, puisque la crise du libéralisme est donc un texte qui a été publié l'année dernière, si je l'ai bien saisi, nous explique effectivement ce que le libéralisme est devenu aujourd'hui. Hein, est quelque chose qui finalement est l'outil d'une forme de déclin de l'Occident. C'est-à-dire que il y a des formules très frappante. Alors c'est valable pas seulement au plan économique, mais surtout au plan politique, puisque je crois que Pierre Manant insiste sur l'idée d'une crise qui est bien au-delà d'une crise économique, une crise politique, et il parle même d'une crise morale, une crise de civilisation. Donc là, effectivement, il y a une sorte d'inversion, si je puis dire, une critique de la modernité libérale qui s'atténue, hein, et inversement, un soutien à la politique libérale qui devient... qui conduit à une forme de scepticisme, pour le dire simplement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Tout à fait. Ouais.